toutes les playlists spéciales Halloween qu'on trouve sur le net. En fait, à l'écoute, ça ne ressemblait pas vraiment à une spéciale Halloween, parce que c'est pas parce que tu mets des titres qui parlent de dead ou de zombies ou de death ou de witch, etc., que l'ambiance fait Halloween. Et là, on s'est plié en quatre. Parfait. Et là, on s'est plié en quatre pour vous faire une vraie spéciale Halloween de ces morts, avec notamment Black Sabbath. Hein, l'émission s'ouvre sur Black Sabbath avec le titre Black Sabbath, donc il y a des ambiances de cimetière, etc. Il y a des vrais morceaux qui font vraiment peur, comme le titre de Tanya Tagak avec le titre Aorta. Alors c'est particulier Tanya Tagak parce que c'est une chanteuse inuite qui chante des chants... Alors c'est pas des chants traditionnels, mais c'est chanté de manière traditionnelle avec des chants gutturaux.
Ah ouais,
donc
de gorge,
c'est des chants de gorge. Ouais. C'est extrêmement dérangeant à l'écoute. Franchement, c'est de l'anti-ASMR. dans le même genre, qu'est-ce qu'on va passer ? Il y a Nine Inch Nails aussi avec The Becoming. Il y aura du Sepultura, évidemment, référence à notre enfance. Je crois que j'en ai parlé dans un spécial. Dans l'autobiographie musicale pour la centième.
Vous pouvez réécouter aussi, pour la centième. Ouais.
Et donc voilà, c'est cadeau, la spéciale Halloween.
Il n'y a pas que des chansons qui font peur. Il y a ta voix aussi.
Du coup, c'est une émission qui est un peu. C'est une émission qui est un peu plus courte. Elle dure une heure et demie. C'est principalement de la musique et il y a quelques transitions avec une espèce de démon qui vous accueillera et qui vous fera probablement rire à certains moments. Et c'est disponible sur SoundCloud, Spotify, Deezer, sur toutes nos plateformes au moment où je vous parle.
C'est cadeau. Happy birthday.
Cadeau pour vous. Bon anniversaire.
Et Yannick, on ne fêterait pas nos 10 ans ce soir si on n'avait pas de fidèles auditrices et auditeurs qui nous suivent.
Tout à fait. Depuis les débuts, ouais.
Certains plus récemment et qui nous écoutent de manière très, très...
Très régulière,
j'allais dire ponctuelle. Très régulière.
Ponctuelle. Alors on sait parce qu'on a les stats sur le SoundCloud, donc on s'excuse d'avance.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le SoundCloud.
Spotify, Deezer, mais on n'a pas les stats
sur SoundCloud.
Donc pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, déjà on va remercier Moini, qu'on va embrasser aussi.
Ah oui, sur Spotify, oui.
Oui, qui nous écoute très régulièrement. On aimerait remercier Velishka Pachedieva, qui nous écoute très très régulièrement. Il y a aussi To, c'est juste son pseudo,
To,
qui vient de Russie, qui nous écoute aussi très régulièrement, qui nous écoute pas beaucoup en ce moment,
non.
Elle est très occupée.
on sait tout sur
tout le monde. On aimerait remercier aussi Claver Mouzenzeka, qui nous avait laissé un petit message aussi sur la spéciale Héritage de l'Afrique, puisque de mémoire, non je vais dire une bêtise, il est sur le continent africain, mais déjà quand je l'ai remercié dans la spéciale Afrovision, dans la spéciale Afrovision, j'avais dit une bêtise, j'avais dit qu'il venait du Sénégal alors qu'en fait il est malien.
Je crois qu'il est malien.
Non, c'est vrai, tu crois ?
Je sais rien.
Est-ce que c'était un truc sur le Mali ? Est-ce que j'ai un collègue malien au boulot qui disait non, il est congolais. Je sais plus. En tout cas, Claver, on te remercie et on t'embrasse. Il y a aussi Le Brac qui nous a contacté récemment, que l'on salue. Il y a Ghost of the Garage, alias Charlie. J'en profite pour passer le bonjour à Alexis aussi, qui nous suit également. Incentive qui nous suit. Manuel Samukera qui nous suit. Je crois que c'est un Vosgien, celui-là.
Non, pas du tout.
C'est pas Vosgien.
Tu confonds. Ah non, c'est Julien et Toff.
Ah.
Ce sont Vosgiens qui nous suivent régulièrement.
D'accord. Aline, que vous avez entendu notamment dans les deux spéciales Japon, on en parlait tout à l'heure, et toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Spotify ou Deezer et qui n'apparaissent pas.
On peut saluer ta maman aussi qui nous écoute souvent.
Et oui, un grand merci, un gros bisou à Nadia et Josette, nos mamans respectives. Nadia, c'est ta maman. Josette, c'est ma maman.
C'est ma sœur.
Nadia, c'est ta sœur. Je pensais que c'était ta mère. C'est vrai ? Comment s'appelle ta maman ?
Claudie.
Ah, c'est Claudie. C'est Nadia qui nous like tous nos posts.
Oui.
Ah bon, on l'embrasse.
Bah oui.
Ainsi que Josette, qui sort encore de l'opération aujourd'hui, de l'hôpital, et qu'on embrasse.
Ça
s'est très bien passé.
Bon, très bien. On est rassurés. On la salue très fort.
Un énorme bisou.
Bah oui.
Faut rendre l'antenne maintenant.
C'est le moment de rendre l'antenne.
On
se retrouve le mois prochain.
Pour la spéciale Nécro, on rigolera peut-être un peu moins.
Dans quelques années pour une best-of.
Oui, ouais. Et on vous laisse avec la spéciale Halloween.
Ah oui, bah oui, allez l'écouter.
Qui vous fera
vous
marrer
à ça. Vous allez rigoler
moment.
Également. Un peu moins.
Peur et rire.
Peur et rire.
Ce nouveau concept.
Ça. Voilà.
Allez, on vous embrasse et on vous remercie.
Et on vous dit à très vite, à très bientôt.
Bye bye.
Sono le 22:30.
Radio Libertaire. Hello, bonsoir, c'est Radio Libertaire en direct. Ne te précipite pas sur le micro, Serge, il n'est pas ouvert. C'est bon, salut.
Salut.
Salut les gars.
Bonjour. Salut Enric.
Bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs.
Oui. Donc, c'est pas bye bye, c'est hello, bonsoir tout le monde. Aux déglingos qui nous écoutent ce soir, vendredi 13 octobre 2023. Il est 21h passé de quelques minutes sur cette antenne. Et cette antenne, c'est Radio Libertaire. 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, qui ce soir vous propose de vous enjoyer. On va se déterrer un peu d'une atmosphère pesante de malheurs en cascade, de terrifiantes... chose qui se passe pour prendre carrément le contre-pied, je sais, c'est peut-être obscène, mais bon, après tout, on fait de la radio, on fait de l'entertainment, the show must go on, comme dirait l'autre, hein. Et donc, the show must go on ce soir, avec une programmation légère, excitante, pleine de joie et d'entrain, et même un peu de grivoiserie. Alors c'est carrément le contre-pied, hein, voilà. C'était prévu depuis un moment, et puis de toute façon, si je devais à chaque fois, enfin, penser à ce qu'il y a, cette société de merde, ce monde de merde qui nous entoure, eh bien, soit je ne passerai que de la musique hyper lugubre et funèbre pour un enterrement géant et permanent, soit j'irai vivre dans ma cave. Voilà. Alors, chers amis, amis de la radio, des nuits radiophoniques sur Radio Libertaire, donc vous êtes en compagnie du Post Non Radio Show, une émission qui ne se prend pas au sérieux malgré tout. Il faut bien.
Bah oui, je suis d'accord avec toi.
Bah oui, il faut bien. Donc cette émission était prévue depuis un moment et je me suis dit bon, je vais la faire. On fait ça. On passe ces disques et puis basta. Je vous dis, sinon, c'est l'éloge funèbre permanente. Avec tout ce qui se passe, c'est pas possible. Pardon, je tousse.
Donc, on va mixer.
On va mixer de la joie et du cul. Enfin, du sexe, pour être poli. Et de l'art contemporain, ce soir.
Ah, ça va avec, oui.
Ah oui, c'est un peu, ça peut paraître ouais. Un peu comme ça, mais l'art contemporain peut être aussi olé olé. Donc j'ai toujours mes chats dans la gorge, litière incluse.
Voilà. Miaou.
Ouais, miaou. Ah, c'est miaou.
Ah,
dis
donc, ouais.
C'est miaou, miaou. Alors, miaou, miaou, j'enlève mon foulard.
T'as une idée de la programmation, ou alors tu as fait les achats peut-être de dernière minute et,
Non, pas du tout, c'est des disques que j'accumule, parce que je suis tout le temps en train d'en acheter.
Oui, bah oui, mais...
Désolé, j'ai vraiment un chat, là. Et je suis toujours en train d'en acheter, donc il s'accumule, donc... Je
oui, t'en as encore sous le coude. Oui.
Je programme des thématiques, etc., des sets, avec tout ce que j'achète, voilà. Et de toute façon, il y en a. J'en achète tout le temps. Je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Il faudrait que je fasse une thérapie. Voilà, une thérapie.
Antiphonographique.
Les discophiles anonymes. Oh, je suis désolé, j'ai encore acheté 50 disques cette semaine. Oh là là, mais je recommencerai plus. Bon, ok.
Est-ce que tu dis ce que tu viens de passer ou...
Après, commencé voilà. Par les festivités
de la librairie Publico.
De la librairie Publico. Décidément, là, c'est vraiment... Ok, chers amis, demain, 14 octobre, 16h, ce sont les... je vais mourir. Enfin non, j'ai failli. On va recommencer les conneries. Les 25 ans de la revue Réfraction, et c'est une présentation débat du numéro 50, c'est demain à 16h. Alors, dimanche, 14h, c'est le lancement de la quinzaine Antifa avec la Horde. J'aimerais bien savoir qui c'est ça, la Horde. Rencontre débat autour du livre 10 questions sur l'antifascisme. Libertalia, organisée dans le cadre de la campagne fédérale antifasciste. Il y aurait des questions à se poser quand même. Enfin bref, c'est un sujet un peu... le mardi 17 octobre à 19h, c'est Michel Bernard. qui elle présente.
Elle présente un bouquin en plus, oui.
Ouais, son livre, quand vous me rendrez visite, voilà, accompagné de quelques chansonnettes.
Bah oui, elle sera là avec sa guitare. Touf, oui, oui.
Mercredi 18 octobre, c'est à 20h, le cinéma de la commune vous propose Esperanzas ou l'école des pêcheurs, suivi de Paul Robin et l'orphelinat.
De Saint-Puis. Oui.
Ouais, merci.
Ouais, très bien. Oui, oui.
Jeudi 19 octobre, dis donc, ça s'enchaîne.
Oui, oui, toute la semaine
est occupée. 19h le jeudi, une vie de lutte et Paris rebelle, approche de l'antifascisme, fascisme français en deux films. Ces deux-là, donc. Et ensuite, le samedi 21, 18h, 21h, il y a un DJ set sauvagement antifa. Du mouton qui mord de chez Me Productions. Voilà, ils font. Et puis enfin, le mardi 24 octobre, 19h droite. Ma langue fourche. 19h à l'extrême droite et les femmes. Je voulais aller plus vite que la musique. Rencontre débat. Ah, vous ne dites plus rien.
Oui, bah si.
Ah, vous êtes épaté.
Oui, puis ça finit toujours par des groupes de musicaux et que je ne connais pas, moi.
Bon, moi, ça m'intéresse. Moi, je me pose des questions, en fait. Mais il faudrait que j'aille à toutes ces réunions pour savoir. Pour savoir.
Voilà.
Les réponses, en fait. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps, si j'ai le courage. Parce que quand même, j'ai une vie de vieux en semaine. Moi, le soir, à 10h, je suis au lit. Hein.
Ah oui.
Ah, je suis fatigué, donc je sors pas beaucoup, en fait. Si vous voulez tout savoir. Hein, je sais pas...
Est-ce que tu as l'information comme quoi il y aurait...
guerre nucléaire, non,
il y aura l'anti-nucléaire le dimanche 22.
Ah, je sais pas.
Au CICP. Voilà.
Attends, il faut que j'aille sur ma boîte mail.
Oui, Voltaire, oui.
Alors... tu dis donc
le 22.
Le 22, octobre, je ouais. sais pas, il faut que je retrouve parce que j'ai pas nettoyé ma boîte mail.
C'est un dimanche.
Pour info, le programme de la journée d'action du 22 octobre 2023,
voilà.
Organisé par la coordination antinucléaire Île-de-France,
ouais.
membre de la coordination nationale antinucléaire, dont la Fédération anarchiste fait partie. Je regarde, je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être un peu enrhumé.
C'est l'après-midi à partir de 14h.
Ah, oh, chiotte. Au CICP 21, Inter, rue Voltaire, Paris, métro, rue des Boulets.
Exact.
De 14h30 à 22h.
Oui.
Il y a plein de conférences, de débats sur le nucléaire à travers le monde, Fukushima, la centrale de Nogent-sur-Seine, la relance du nucléaire, il y aura des films, etc. Oh, que des trucs qui font bien peur, quoi.
Ben oui, oui. C'est une...
Ça, c'est pour les 80 ans du nucléaire dans le monde.
Oui, c'est pour se remobiliser un peu. Oui.
Ouais.
Parce que les gouvernements, il n'y a pas que le nôtre, hein, les gouvernements préparent un renforcement de ce qu'il y a au niveau nucléaire dans les pays, par soi-disant des petites centrales qui seraient, pas nocives et tout ça, voilà, oui.
Ouais.
Et puis les anciennes qu'il va falloir conserver, faire durer un peu plus.
Moi je sais plus, tu sais,
voilà.
Je suis lost, perdu là-dedans, je sais plus du tout.
Oui.
Avec en plus les écolos, certains qui veulent pas d'éoliennes, qui veulent. Alors il faut faire quoi? Parce que bon, si tu mises pas tout sur les panneaux, sur l'hydraulique, sur les éoliennes, tu fais quoi?
Bah oui, voilà.
Ouais. Je veux dire, après, ils sont là, les éoliennes, ça dénature. Bah ouais, mais une putain de centrale nucléaire, ça dénature pas.
Mais les Écossais, ils ont...
C'est peut-être moins polluant quand même, je ne sais pas, il faut trouver une solution.
Ils utilisent les éoliennes flottantes qui peuvent mettre comme ça très très loin des côtes, ça fait qu'on ne les voit pas. Et en plus, elles fonctionnent dans 55% des cas, contre à peu près 35% pour une éolienne plus proche du continent.
C'est vrai que les éoliennes sur le continent, il y en a souvent qui sont arrêtées.
Et il y en a, là, elles sont en mer. Mais assez proche des côtes, donc 35%. Et j'ai lu là aujourd'hui qu'il y avait une première installation d'éoliennes flottantes en Méditerranée. Mais je n'ai pas eu de trace écrite, c'est un truc que j'ai entendu.
Donc il faudrait se mettre d'accord à un moment donné. Si tu veux sortir du nucléaire et abandonner le charbon également, il faut faire quoi ?
Non, mais...
On n'a toujours pas trouvé l'énergie illimitée que les extraterrestres doivent nous apporter.
Moi, j'ai un petit article du Canard sur le nucléaire. Parce que Macron, ça s'intitule « Nucléaire Macron chef de rayon ». C'est dans le Canard enchaîné du 20 septembre 2023. Ils disent que Macron n'a pas digéré le vote des députés qui ont osé rejeter en avril dernier sa réforme du contrôle des installations nucléaires. En fait, et donc il représente une deuxième fois exactement le même texte. Et au printemps dernier, il avait essayé de profiter de l'examen d'une loi sur l'énergie pour démanteler l'IRSN, c'est-à-dire l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui mène les expertises sur les installations. Il entendait confier l'essentiel des prérogatives de l'Institut à l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui joue le rôle de gendarme de l'atome. Officiellement, il s'agissait de renforcer la sécurité et de rationaliser les procédures pour accélérer la construction des nouveaux réacteurs de type EPR. Mais le problème, c'est que la réforme donc va éclater les compétences de l'IRSN. Par exemple, les ingénieurs travaillant sur la sûreté nucléaire militaire ne rejoindront pas l'ASN, mais son équivalent au ministère des Armées. Donc, ils ne pourront plus partager leur expérience avec leurs collègues, ni profiter de leur expertise, comme c'était le cas depuis des décennies. De même, toutes les activités commerciales menées aujourd'hui par l'IRSN seront abandonnées au privé. Parmi lesquels la surveillance de l'environnement autour des sites EDF ou la fabrication de dosimètres pour mesurer les radiations reçues. C'est d'autant plus finaux que ces recettes de secteur alimentent le budget de l'IRSN à hauteur de 70%, dit le Canard. Et mieux, Agnès Pannier-Runacher a opposé une femme de recevoir au syndicat qui souhaitait voir garantie l'indépendance des experts chargés de rédiger les avis scientifiques remis aux 5 commissaires de l'ASN nommés par le pouvoir politique. Et demain, donc, les 5 patrons de l'autorité de sûreté auront ainsi, sous leur autorité directe, les chercheurs chargés de définir si un réacteur peut continuer de tourner en toute sécurité ou doit être mis à l'arrêt. Autrement dit, ça sera des chercheurs aux ordres. L'article termine en disant que c'est contraire aux règles déontologiques qui font consensus au plan international.
C'est en fait
les représentants du personnel s'alarment.
Mais apparemment, c'est pour faire passer la pilule du nucléaire qu'il y a.
C'est pour aller plus vite.
C'est pour aller plus vite, voilà, exactement.
Mais il y a des endroits où il ne faut pas aller plus vite. C'est dangereux le nucléaire.
Voilà. Ouais.
Puis il n'est pas obligé de faire du nucléaire autant qu'il fait là. Hein. Il pourrait mettre l'accent plus sur les éoliennes.
Oui.
Enfin bon. Les éoliennes qu'on ne voit pas. Donc, alors, ces éoliennes en mer qui sont flottantes, donc elles sont accrochées à trois ancres, et donc elles flottent, puis c'est tout. Quoi.
Oh, mais c'est la première fois que j'entends parler d'éoliennes flottantes.
Ah bon ?
Oui.
Et il y a un autre projet, d'ailleurs, c'est au large de l'île d'Oléron. Il se trouve qu'on a un projet d'éoliennes, alors qu'elles sont peut-être, je ne sais pas si elles sont flottantes ou pas, mais elles se trouvent dans un couloir de migration des oiseaux.
Ah.
Et donc il y a des spécialistes de ces migrations qui collectent les informations sur les trajets qui suivent comme ça depuis de longues dates. Donc ils savent que les éoliennes sont précisément sur les trajets, et donc ça va être une boucherie pour ces oiseaux, comme il en existe déjà. À chaque fois qu'il y a des éoliennes, il y a quand même des oiseaux qui se tapent dedans et qui perdent la vie. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est que ça soit encore plus loin de la côte. Mais pour l'instant, c'est un vœu qu'il formule, disons. Peut-être que ça sera accepté, je ne sais pas. Et effectivement, quand on voit une carte, il montrait une carte. Il était sur une plage et il montrait sa carte. C'était à la télévision hier, je crois. Et on voyait, en fait, une sorte de trait bleu qui simulait donc le trajet de ces oiseaux sauvages. Bon, et ces éoliennes sont pile dessus. Bon, on peut pas penser à tout, mais une fois qu'on a des petits trucs à rectifier, il faut accepter, quoi.
Ouais.
Voilà.
Eh bien, c'est bien, c'est un bon début, une bonne intro, voilà, on est plombé pour la soirée.
Si vraiment tu veux être plombé, je peux te lire un truc rigolo.
Je sais, on le sait tous, le retour du glyphosate.
Je pensais à autre chose. À la façon dont le canard dit qu'il n'aime pas une pièce de théâtre. Ça s'appelle « Avant la terreur ». Et alors moi j'avais lu, c'est bon, je vous lis. Prenez Richard III, la pièce de Shakespeare, passez-la à la moulinette, transformez-la en grand guignol hystérique et mêlez-y un gloubi-goulga de considérations vaseuses sur l'écologie, le pétrole et les armes, la sécurité sociale, etc. Ajoutez-y des images vidéo d'accidents de la route, de bombes H, etc. Interpellez le public. Faites le maître debout, assis, debout. Faites circuler les comédiens dans la salle et dans les coulisses. Faites-les suivre par une caméra et braillez sans cesse dans le micro. Des bouchons d'oreilles sont d'ailleurs mis à disposition à l'entrée. Ne lésinez pas sur les fumigènes, la boue, la flotte, le faux pétrole, le faux sang, les éclaboussures, les gags pas drôles. Jouez la gore et fausse provoque. Faites durer le tout 2h30 et terminez sur un discours tout guimauveux, tendance New Age. Et vous serez cette pièce écrite et mise en scène par Vincent Macaigne qui fait pchit. On s'y ennuie ferme.
J'allais dire, alors, le public applaudit, mais...
Alors, pour descendre une pièce, je dois dire que le mec, il fait fort. La personne en question, c'est j.l.p. Je ne suis pas décryptologue, donc je ne sais pas...
En gros, c'est le bordel, le foutoir... Non.
Et moi, j'avais vu des articles, mais malheureusement, je ne les ai pas lus dans Le Monde sur ce spectacle, et donc je ne peux pas en parler positivement. Je suis désolé pour...
En gros, après, il faut nettoyer tout le merdier...
Oui. Alors, il a inventé un adjectif, hein. Guimauveux.
Oui, guimauveux.
C'est guimauveux. C'est un mot valise un peu aussi, parce qu'il y a mauvais dedans. Il y a guimauve, il y a mauvais, il y a...
Hein. Oh, bah, dans le canard, il relevait...
Il y a morve aussi.
Il y a morve aussi, oui. Oui, si on veut jusque-là, oui. Oui, c'est complet, hein. Merci Serge.
Oh, bah, vous êtes en forme ce soir.
Hein. C'est impeccable, oui.
Oh, vous ne cesserez de m'étonner, les enfants. Allez,
oui. Non, mais c'est...
allez, une pause musicale, on l'a mérité.
Sympathie que gratin sans fer.
The Post Non Radio Show, The Post Non Radio Show, c'est sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est sur le 89.4, radio-libertaire.org et anarchiste.info. Oui, il y a quelqu'un?
Oui. On a lu des articles sur. Sur El Kabash, effectivement.
Oui, sur El Kabash, on pourrait lui faire un enterrement digne de son talent, disons. Alors, il y a deux articles qu'on a. C'est la maison Jean-Pierre El Kabash qui fait polémique. Donc
c'est Le Monde.
Parce que le bâtiment principal de France Télévisions portera le nom du journaliste mort le 3 octobre. Et puis un article de Canard deux jours après, le 11 octobre, qui dit El Kabash au Panthéon. Voilà.
Et donc je
vais mélanger un peu les deux. En commençant par le Canard qui dit que moins d'une semaine après son décès, le voilà qui règne en majesté sur les bâtiments de la télévision publique dont il s'était fait virer pour mauvaise gestion. En un temps record, voilà son nom au précipice d'un établissement dont il avait dilapidé les fonds selon la Cour des comptes en offrant des rémunérations somptueuses aux animateurs producteurs entre 1993 et 1996. Oh, que c'est loin.
C'est l'affaire des patates.
Donc, on apprend un peu plus dans Le Monde là-dessus, parce que c'est vrai que c'est loin, on a oublié. Et donc, il y avait une violente polémique. Restés dans les témoignages comme le scandale des voleurs de patates, sous sa présidence, les animateurs producteurs, c'est-à-dire Jean-Luc Delarue, Nagui, Michel Drucker, Mireille Thuma, Arthur et Jean-Jacques Martin, avaient bénéficié de contrats juteux, sévèrement réprouvés par la Cour des comptes dans leurs conditions d'attribution comme dans leur finalité qui était l'enrichissement des sociétés intéressées. Alors, le président de la République, lui, il cherchait à rendre hommage à ce talent, donc. Et Jean-Pierre Elkabbach en a eu pour ce parachutage post-mortem, donc, d'après le Canard. Les syndicats soucieux de l'indépendance de l'audiovisuel public s'étranglent, on les comprend. Surtout qu'Emmanuel Macron en personne a présidé la cérémonie de baptême. Il y tenait pour saluer le lien de soumission entre l'exécutif et la télévision publique. Quel meilleur symbole qu'Elkabbach, journaliste connivant entre tous, qui a toujours caressé les pouvoirs dans le sens du poil. Giscardien sous Giscard, Mitterrand dit sous Mitterrand, et ainsi de suite, l'homme épousait la cause des puissants avec une technique bien maîtrisée, feindre la fausse irrévérence dans les interviews pour mieux les servir. On a obtenu de belles gratifications dans la direction de France Télévisions sous l'ère Balladurienne, et il a su rejoindre Bolloré quand Lagardère a eu l'outrecuidance de le pousser à la retraite. Emmanuel Macron, pour une fois, fait preuve d'un humour que j'aime bien, disons. Il a salué sa souplesse pour se conformer aux règles et son adresse pour obtenir des postes. Le Canard, un peu méchant, ajoute une sorte d'autoportrait en majesté. Voilà.
Si j'ai bien compris,
il est mort.
Oui, d'accord, ça c'est vrai. Mais en fait, nommer un bâtiment à son nom, c'est peut-être un peu trop grand.
Alors,
sais que quand on en radio ou en télévision, souvent, on baptise un studio, mais pas une maison, pas un ensemble, pas un bâtiment, c'est pas possible.
Voilà, alors en fait, Jean-Pierre Elkabbach, il a terminé sa carrière sur CNews et il disait, dans le meilleur des cas, j'aurai mon nom affiché à la porte d'un studio de télé ou de radio.
Ah oui,
ça, c'est une petite interview, un portrait paru de lui en 2017 dans Libération. Il n'imaginait pas que ça déclencherait une ultime polémique, mais personne n'imaginait non plus qu'il aurait le droit à un bâtiment complet.
Oui, il y a eu quand même au fil de la semaine là, depuis qu'il est mort, quelques personnalités qui ont livré des anecdotes croustillantes sur son attitude de star entre guillemets, de majesté, de monsieur méprisant et qui est vraiment qui était imbuvable en gros quoi.
Oui.
Voilà. Non, il mérite pas franchement. Ouais. Un studio comme ça de secours au fond d'un couloir ou au sous-sol de Radio France aurait été déjà très bien. Non, mais France Télévisions et Radio France, ils ont l'habitude d'étaler partout leurs trucs, de faire dans l'étalage. Dans la bouffonnerie.
Est-ce qu'on parle du glyphosate?
Glyphosate.
On va parler du glyphosate.
Ah, le glyphosate.
Évidemment, la France s'est abstenue là, avec l'Allemagne d'ailleurs, ce qui m'a surpris parce que je croyais que l'Allemagne allait voter contre la poursuite. Mais bon, ils se sont abstenus. J'ai trouvé un article daté du Monde, très récent, c'est vendredi 13 octobre.
Ben voilà.
C'est aujourd'hui.
Oui, mais il est sorti hier, donc. D'un professeur de neurologie du centre hospitalier de l'université de Rabud, aux Pays-Bas, et de Boonstra, qui est chercheuse en neurologie à l'université de technologie de Delft et membre de l'Alliance contre le Parkinson aux Pays-Bas. Et donc, alors que la Commission européenne doit valider le renouvellement pour 10 ans de l'autorisation de l'herbicide, ces deux médecins néerlandais alertent sur la nécessité de développer un nouveau cadre d'évaluation ciblant les risques pour les pathologies neurodégénératives. Merci. Je vais vous lire l'article parce que c'est quand même intéressant.
J'espère qu'il n'est pas trop long.
C'est dans le détail. Je veux bien passer mon tour pour un moment. Il est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes.
Oh, glyphosate, mon amour.
Oui. Je veux bien commencer et m'interrompre.
Alors, fais attention, ne mange pas TR.
C'est un article qui peut se couper ?
Ouais. Le nombre de personnes atteintes de pathologies neurodégénératives, je vous remercie, stop, telles que les maladies de Parkinson ou Alzheimer, a forcément augmenté ces dernières années. Parkinson est actuellement la maladie neurologique qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. On parle d'une pandémie, d'une véritable pandémie. Le nombre de personnes atteintes devrait encore doubler au cours des 20 prochaines années si nous n'agissons pas maintenant. Cette croissance est due en grande partie aux polluants présents dans notre environnement, tels que les pesticides. Les agriculteurs ont un risque fortement accru de contracter cette maladie. Et il en va de même pour les personnes vivant à proximité de parcelles agricoles. En France, le risque de maladie de Parkinson chez les viticulteurs exposés aux pesticides est multiplié par plus de 2,5. Et cette pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle pour cette population. Alors, le 13 octobre, donc 12 et 13 octobre, l'Europe devait se prononcer sur le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate, herbicide controversé, associé à la perte de biodiversité et à la mortalité des abeilles. En outre, il est de plus en plus évident que l'utilisation du glyphosate présente des risques pour la santé humaine, tels que le cancer. Beaucoup d'entre nous sont exposés quotidiennement au glyphosate et l'étude internationale SPRINT, ce qui signifie sustainable, bon c'est un titre anglais qui résume un truc que je vais écorcher parce que je suis pas angliciste, sustainable plant protection de transition, menée auprès de 700 personnes de toute l'Europe, a révélé que les résidus de glyphosate étaient présents dans les matières fécales de 70% des participants. Bon, c'est des choses, on ne parle pas en général, mais disons 70%, c'est quand même, ça fait
beaucoup. C'est quand même pas mal pour ouais. Des matières fécales, quand même. Hein.
J'ai pas un assez bien. Glissons. Preuve suffisante. Le problème est que la politique d'autorisation actuelle, organisée par l'autorité européenne de sécurité des aliments, présente de graves lacunes, écrivent-ils. Les animaux de laboratoire sont exposés à des pesticides et le risque de lésion cérébrale est évalué principalement en fonction de l'apparition de symptômes neurologiques observables, c'est-à-dire ayant une traduction sur le comportement des animaux de laboratoire. Or, de tels protocoles sont inadéquats. Le cerveau disposant d'une grande capacité de réserve, les symptômes n'apparaissent qu'en cas de dommages importants, c'est-à-dire lorsque 60% à 70% des cellules nerveuses de la zone cérébrale impliquée sont endommagées. Si par exemple 40% de ces cellules sont mortes, l'animal testé semble toujours en parfaite santé, mais le pesticide étudié est tout sauf sûr. Ainsi, l'absence de symptômes neurologiques lors d'une expérience sur des animaux de laboratoire n'exclut nullement la possibilité que des dommages importants se soient produits. Des comptages cellulaires ciblés dans les régions du cerveau impliquées dans la maladie de Parkinson sont nécessaires, mais ça ne fait pas actuellement partie du cadre d'évaluation. Cette lacune est reconnue depuis des années par les experts internationaux d'instituts de recherche indépendants, mais aussi désormais par les autorités elles-mêmes. En témoigne une conclusion d'une conférence scientifique internationale en septembre 2022, qui a associé des chercheurs du monde académique et des experts des agences réglementaires. La conclusion de cette réunion était libellée ainsi. Dans l'ensemble, un large consensus s'est dégagé sur le fait que les procédures actuellement en vigueur, qui font partie des mesures réglementaires existantes, sont susceptibles d'offrir une évaluation inadéquate de risque de développer la maladie de Parkinson en cas d'exposition de l'homme. Une deuxième préoccupation est que les doses de glyphosate utilisées jusqu'à présent dans les expériences animales étaient probablement beaucoup trop faibles et non représentatives. Les expériences ont été menées avec des concentrations de glyphosate équivalentes à celles que reçoivent les humains à travers leur alimentation. Or, le glyphosate est aussi présent dans l'air et les poussières.
Oh, super!
Ce qui entraîne une exposition par la peau et par la respiration.
Génial!
Ces voies d'accès et ces concentrations élevées devraient également être explicitement prises en compte lors de l'évaluation du risque de lésion cérébrale due à l'herbicide. Enfin, certains s'inquiètent du fait que ces tests et études réglementaires sont menés par l'industrie elle-même. Or, il existe aujourd'hui un faisceau de preuves scientifiques indiquant que le glyphosate est une cause possible du Parkinson. Les études sur les animaux montrent que les zones du cerveau concernées par cette pathologie sont endommagées après une exposition à cette substance. Une étude récente a montré que l'exposition au glyphosate était associée à des signes de lésions cérébrales mesurés par un marqueur sanguin, qui est le neurofilament à la chaîne légère. Je bafouille pas toujours, quand c'est en français, ça va. C'est l'anglais qui colle pas. Les lésions cérébrales des maladies de Parkinson et d'Alzheimer, entre autres. Ces effets ont été observés dans la population générale, c'est-à-dire chez des personnes qui ne travaillaient pas au contact du glyphosate. Ah. Ces preuves permettent-elles de conclure ? Non. Mais elle constitue des preuves d'un lien dit biologiquement plausible entre l'exposition au glyphosate et le risque de maladie de Parkinson. Si on ajoute à cela les lacunes du cadre d'évaluation et la croissance rapide de la maladie, il y a de quoi s'inquiéter sérieusement. Oui. La suite vaut son paquet de cacahuètes parce qu'il dit la chose suivante. En tant que médecin spécialiste des maladies neurodégénératives, nous avons trois conseils à donner à Marc Fresneau, le ministre français de l'Agriculture. D'abord, voter contre le renouvellement de l'autorisation du glyphosate. Ensuite, demander à l'Europe de débloquer des fonds pour le développement d'un cadre amélioré d'évaluation des pesticides ciblant les risques de maladies de Parkinson et d'autres pathologies neurodégénératives. Enfin, faites évaluer le glyphosate et tous les autres pesticides actuellement autorisés par les institutions scientifiques indépendantes. En parallèle, des alternatives aux pesticides doivent être vigoureusement recherchées. Cela protégera votre population et contribuera à freiner la pandémie de Parkinson. Il y a un petit peu d'insolence, mais j'ai l'impression qu'ils pensent que notre ministre manque d'imagination, donc ils ont raison de lui ouvrir les
pistes. Et puis je note aussi que les expérimentations animales, c'est pas le bon dosage, donc ça fausse complètement en fait.
C'est terrible. Hein.
C'est complètement faussé en fait. Il faut refaire des études, ouais. avec vraiment le dosage que reçoit l'homme, etc. Sur les petites souris, malheureusement.
En gros, on va tous mourir et en plus on sera complètement gaga, donc on ne se rendra même pas compte si encore on mourait.
Mais non, la maladie de Parkinson
on ne meurt pas.
Tu étais handicapé pendant très longtemps. Voilà. Tu le vois venir. Tu sais que tu vas devenir parce que tu commences à avoir des troubles, des mains qui tremblent ou des choses comme ça.
Je confonds avec Alzheimer.
Et ça dure pendant des années.
Et la crotte.
Et donc, tu as des enfants à élever et tu sais que tu vas devoir les élever et tu sais que tu vas avoir un problème dans le boulot, que tu vas avoir un problème avec tes enfants, etc. C'est un truc dramatique.
Ce que dit Yves, il y a plusieurs formes de Parkinson, attention.
Oui. Mmh. Oui. Oui, effectivement.
Bon, bah, c'est super. Vraiment, génial.
Alors, j'ai encore un petit article du glyphosate dans le bidon, mais j'arrête si tu préfères.
J'aime bien qu'on fasse une petite pause quand même, parce que là, c'est.
Ok.
C'est de longues prises de parole.
C'est un truc très court, là, mais j'en parlerai tout à l'heure.
Vas-y, si c'est un truc très court. Allez, vas-y, finis-nous, là. Achève-nous.
Bayer a contribué une plainte pour dissimulation des risques liés au glyphosate déposée par la justice autrichienne par plusieurs ONG européennes, dont Génération Future. Les écolos reprochent aux agences sanitaires comme l'EFSA de fonder leur avis sur les seuls dossiers fournis par les industriels. Ainsi est passé à l'as le dossier de l'autorité. Dans le dossier de l'autorité, une étude universitaire américaine mettant en évidence un risque accru d'autisme chez les enfants dont la mère est exposée au glyphosate pendant la grossesse. Le tri que fait l'EFSA fausse grandement leurs résultats, par exemple la neurotoxicité. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc l'INSERM, qui prend en compte 9 études académiques, se montre préoccupé quand l'EFSA, qui n'en retient aucune, conclut qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pas plus pour la génotoxicité ou les risques pour la reproduction. Donc même discours rassurant sur les effets cancérigènes, alors que depuis 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé le glyphosate cancérigène probable pour l'homme. Castantienne, pour le ministre de l'Agriculture Marc Fresneau, il n'est plus question de faire une croix sur l'herbicide dont nos agriculteurs ont aspergé plus de 7000 tonnes l'année dernière. Bon, on a vu dans une émission précédente que la SNCF arrive à s'en passer. Bon, je vais arrêter là.
Voilà.
Ok, c'était... Oui. Le...
C'est surtout une volonté... Je rappelle que c'était un truc des promesses en 2017.
Oui.
Il devait arrêter dans les 3 ans. Bon, oui. Et on est encore dedans, quoi.
Oui, oui.
Donc c'est quelqu'un qui n'agit pas. Et c'est d'autant plus dramatique que j'ai lu récemment un sondage où maintenant les Français veulent un homme à poigne à 80%, apparemment, 70-80%, je crois que c'est 80%. Et donc, ce monsieur, en même temps, ni droite ni gauche, il est en train de nous préparer des jours... inquiétant.
Ce monsieur, ni droit ni gauche, en même temps, il a la poignée molle.
Oui, dis-donc,
la poignée molle.
Et Yves, en écoutant tes articles, nous, on n'est pas atteints, quand même.
Mais on est glyphosaté.
On est glyphosaté, hein.
On est glyphosaté jusqu'au trognon.
Merci, Yves. Donc,
jusqu'au trognon.
On a pris notre part.
Si tu manges des légumes...
Oui, oui, tu l'as dit, ça. Tu te rends compte, oui, oui, oui. Ouais.
Le plus dramatique, c'est pour les gens qui...
On n'est pas obligé d'être agriculteur.
Qui habitent à la limite
des champs.
De champs. Alors, il y a eu une première avancée très légère, c'est-à-dire maintenant, il y a une petite distance que les fermiers doivent fermer. J'appelle ça plutôt industriel.
Mais c'était
nettement inférieur à ce que préconisaient les organismes sanitaires.
Non, mais moi, j'ai envie de dire, heureusement qu'on vit à Paris, hein.
Ah non, c'est pire, c'est pareil. On reçoit tout ce qu'il y a autour. Donc,
ah merde, on n'est pas sauvé.
Ouais. Non.
Il n'y a pas de champ à Paris.
Mais il y en a autour.
Oh, je suis bête. Allez, on est tous glyphosatés, c'est super. Et on passe à un sujet sérieux, on s'écoute. Bah, je vous le dirai après.
D'accord.
C'est fantastique, c'est terrifique ce slow. Cette musique qui lentement nous emporte. Dans ce fantastique corps à corps, voluptueux à mort. Que c'est bon, d'accord. Je ne sais pas si je vis un amour fou et définitif, mais je suis follement amoureuse de ce slow. Je suis slow sexuel.
Lentement.
De cette danse qui se faufile, s'inscrit dans nos corps.
c'est le moment des confidences.
Je ne t'ai pas tout dit.
Tu ne m'as pas tout dit.
I don't know, I don't know si je suis hétéro. I don't know, I don't know si je suis homo. I don't know, I don't know si je suis transsexuel. I don't know.
Radio Libertaire 89.4 de Post Non Radio Show. Alors, c'est une émission ce soir contre la programmation musicale hautement conceptuellement sexuelle. On a commencé avec un 45 tours de Jad Vio, Peanut Boy, puis un autre 45 tours de Opéra. Multistyle, que je vérifie le titre, c'était Jamais Plus. Et là, en fait, on s'est plongé dans les deux premiers titres du double album de l'artiste de l'artiste d'art contemporain Orlan, Madame Orlan. Un double album très copieux qui s'intitule Le Slow de l'artiste.
C'est elle qui disait je suis slow sexuel, c'est ça?
Ouais, on a commencé avec.
J'avais même compris, j'ai cru comprendre à un moment donné je suis homosexuel.
Non, mais de toute façon, il y en a pour tous les goûts là. Il y en a pour tous les goûts, il y en a même pour les « je suis légume sexuel ». Je suis slow sexuel, c'est le moment des confidences. C'était les deux premiers morceaux. Je vais vous lire le manifeste qui apparaît donc sur la pochette intérieure. Manifeste du slow de l'artiste. Orlan souhaite rapprocher les corps. Elle propose le slow de l'artiste après sa performance iconique, le baiser de l'artiste réalisé à la FIAC en 1977. Elle nous offre ce qui nous a manqué le plus depuis le 17 mars 2020. La chaleur humaine, les embrassades, les hugs, les corps à corps. L'intention est de faire revivre le slow pour les nouvelles générations qui ne l'ont encore jamais dansé.
Ah, ils dansent pas le slow, les nouvelles générations, c'est un truc incroyable ça.
Elle veut leur faire redécouvrir, relancer cette danse comme un soin thérapeutique après cette période difficile de distanciation des corps. Orlan a écrit les paroles de chaque slow et les a proposées à des musiciens et musiciennes afin de créer la mélodie et de chanter ses textes. Ensuite, elle a inséré sa voix dans la musique en collaboration avec la personne invitée. Cet album regroupe les 20 slows extraordinaires qu'Orlan a créé, tout simplement extraordinaire, hein, celle qu'il dit, a créé en complète osmose avec des artistes fantastiques. Ils sont très modestes. Sœur Alice, Jean-Claude Dreyfus,
ah.
Terre Noire, c'était lui à l'instant. Les Tétines Noires, les Chicken Speed, Mimosa, Yael Naïm, oui. Tentative, Régis Campo, Myop, Blue Carmen, les Sans Pattes, La Femme, Romain Brault, Charlie Moreau, Demi Mondaine, Charlemagne Palestine, Kaimei et Luri Lech. Cette pièce sonore est accompagnée d'une grande installation artistique et interactive, le slow de l'artiste, alors, qui devait être, en l'occurrence, avoir lieu lors de la sortie du disque. Donc, c'est pour ça que je le lis au présent, qui débute au 104 à Paris et qui pourra tourner sous d'autres versions et exister dans d'autres espaces d'art. Il s'agit d'une invitation à danser le slow. L'espace entier est tapissé du sol au plafond des slogans. Je suis slow sexuel, le. Je suis art sexuel, le. Nous sommes slow sexuel, le. Qui devient manifeste d'intention du projet. Cette installation est un nouveau lieu de rendez-vous, de rencontre liant. Excusez-moi. Le corps à corps et l'art. Sur l'un des murs de l'installation ainsi que sur le site d'Orlan, orlan.eu, vous pouvez inscrire une annonce et déposer une photo de vous afin d'inviter quelqu'un à danser le slow. Vous pouvez aussi vous photographier avec le doublant avatar d'Orlan en réalité augmentée qui apparaît dans l'espace et danse le slow grâce à un QR code. Fantastique, on applaudit.
C'est moderne.
Une grande projection vidéo vous permettra de découvrir des moments de slow, de corps à corps et de chanter en karaoké. Cette installation fait vivre le slow, vivre les musiques de l'album, rapproche les corps à travers la danse et le chant. Ouais!
Je suppose que comme il y a 20 slows, c'est peut-être un double album. Je l'ai dit.
Est-ce que...
Désolé.
Est-ce que je vous fais passer... Je vous fais passer...
L'album.
Non, je vous fais pas passer l'album.
Aïe.
Je vous fais passer...
Les karaokés.
Bon, c'est pas... Non, ce sont des feuilles avec... chaque feuille du format album 33 tours avec les paroles. Et de l'autre côté, la photo de l'artiste qui accompagne Orlan. Tiens,
ah oui, je vais le chercher.
Donc ce sont 20 slows et 20 artistes. Avec, c'est lourd, hein. Attention, hop. Voilà, donc c'est cet album qui nous accompagne ce soir, ce double album, pardon. Et je dois avouer que dit comme ça, ça peut paraître un peu comme ça, prétentieux, un peu comique, dans le genre, ah là là, les pédants de l'art contemporain. Eh bien, pas du tout.
C'est des faux disques, non? Non, c'est pas des faux disques, ce sont des pochettes.
Ah, c'est la pochette,
là. Non, ce sont des feuilles,
des feuilles format. Avec la photo de l'artiste qui a collaboré au slow, au fameux slow. Et effectivement, je vois la photo
de Jean-Claude Dreyfus.
Et au final, en fait, loin d'être un disque pédant, prétentieux, etc., comme pourrait laisser penser le manifeste, c'est un disque plein de joie,
c'est vrai.
Plein d'humour, très énergique, qui vous donne plein d'énergie. Si vous l'écoutez d'un bout à l'autre entièrement, en fait, vous ressortez là complètement revigoré. Et en fait, il est pas aussi. Il est en fait, c'est.
Enrique a trouvé son élixir de jeunesse.
Tout à fait.
Non, moi, je croyais que c'était les disques, tu sais, comme avant. On faisait,
non.
Et sur ces bandes assez molles, quand même, de disques.
Ouais, bon, ouais,
il y a pas les sillons. Il y a pas les sillons de.
Non.
C'est ça que je croyais.
C'est la forme d'un.
Ça aurait été beau aussi, hein, de faire ça.
C'est la forme d'un 30 cm, mais.
Oui, 30 cm.
Mais c'est des photos avec les paroles derrière.
Donc, c'est un.
Mais c'est joli.
Autrement dit, il y a pas de sillons.
C'est vraiment un excellent double album. Vraiment. Je vous dis qu'il est drôle, amusant, étonnant, plein d'énergie positive et qui est vraiment un vrai moment de plaisir. Ben, on va le voir tout de suite.
Nous sommes écorchés par l'amour. Nous sommes bouleversés par la musique. Par la musique qui parle d'amour.
Nous sommes transpercés.
Nous sommes blessés, écorchés, bouleversés. Nous sommes transpercés, blessés. Écorché, bouleversé, bouleversé. Nous sommes transpercés. Notre besoin de consolation est intéressable. Le corps de l'autre, bienveillant.
Nous sommes blessés.
Le corps de l'autre, s'il est bienveillant, caressant, dansant. Obscurité qui nous apaise. Nous le trouvons temporairement. Il nous berce, nous enchante, nous aimer.
temporairement, émue temporairement, reconstituée, si aimée, reconstituée.
Aimée.
Radio Libertaire, de Post Non Radio Show, et je ne sais toujours pas quel est un disque. Ah là 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 là,
je peux venir à ton aide, mais bon.
Non, mais c'est marrant, ça fait des drôles de petits bruits, c'est drôle. Oh. Je me prends pas la tête. Vous êtes bien, vous savez bien, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio la plus décontractée de...
Ça, c'est vrai.
Ah, je dirais pas du monde, il y en a certainement des plus encore décontractés.
Du gland.
Ah, bravo.
Ah, il fallait la faire, désolé.
Ah ben, on passe du gland, du glyphosate au gland.
Ah bah...
Oh. Bah, il est peut-être contaminé, justement. Le gland est peut-être contaminé par le glyphosate. Justement.
C'est pas vrai.
Le fruit, je parlais du fruit, hein, je parlais du fruit, bien sûr.
Est-ce que c'est un fruit?
Bien sûr,
oui. Oui, je crois que c'est un fruit.
Est-ce que le gland du châtaignier... Non, le gland, c'est du chêne.
Du chêne, oui.
Le gland du chêne est-il un fruit? Ah.
Écoute, on décréter aujourd'hui.
Très bonne question. 01 43 71 89 40 pour la réponse. Hein.
Faut demander aux écureuils.
Il n'y a rien à gagner, mais bon.
Ah, si, une autre chanson de.
On va questionner les écureuils.
Une autre chanson d'Orlan. Alors, je précise que malgré le prix de ce disque.
Oui.
Il y a un petit souci de pressage sur la face 1 du disque 1. Ça c'est pas super beaucoup entendu, mais il non. est là, il y a un souci de pressage. Alors je me dis voilà, on commercialise des disques il n'était pas à ce prix là puisqu'il était en prix vert à la Fnac, c'est là où je l'ai acheté, donc pour 55€ on pourrait il pourrait quand même faire attention à ce qu'ils vendent, quoi. Voilà, parce que bon, ça fait partie...
Mais tu peux demander...
Quoi, envoyer un mot à Madame Orlan?
Non, te pointer sur place et demander un échange.
Bah, je me suis dit qu'ils allaient...
Non, c'est tous les disques. Tous les disques, il y a un défaut de pressage sur tous les disques.
De la série, je pense que c'est pour ça que j'ai failli le faire. Et puis je me suis dit que ça se voit, ça va être la même.
Oui.
Il y a un défaut de pressage.
Oui, c'est possible, oui.
Donc, il y a un petit défaut de pressage sur la face 1, voilà. Après le reste, ça vous plaît. Je vois que vous êtes enchanté.
Ah oui, oui. Ah oui, tout à fait. Ah,
ça nous change.
Ah oui.
Ça nous change du prêche de Saint-Antoine aux poissons de la symphonie numéro 2 de Mahler. Ça nous change pas mal.
Aïe, aïe,
aïe.
Un truc dont j'étais fanatique quand j'avais 30 ans, je conseille d'écouter à tout le monde.
Le glyphosate a fait son œuvre.
Oui, exactement.
Non, mais enfin, en tant que collectionneur de timbres, dès qu'il y a une malconformité sur un produit...
Ça commence à valoir très cher.
Voilà, c'est tout. Oui. Ça augmente son prix.
Pas dans les disques.
Ah, ah mince, ah oui, oui.
Ce qui est principal dans les disques, c'est quand même le son du disque.
Oui, quand même. Oui.
Et s'il est dégradé...
Encore que j'en connaisse qui achètent des disques qui sont composés de problèmes sur d'autres disques.
Oui, ça c'était un autre disque d'art. C'était Patrice Caillet.
Oui.
Mais c'était voulu, c'était également un objet sonore, c'était une démarche artistique, quoi.
Moi, figurez-vous, je suis tombé sur un... Ouais. Ça n'a rien à voir, vas-y, continue.
De toute façon, vous n'y couperez pas.
Non.
Un de ces vendredis, ça sera une spéciale art contemporain.
Okay.
On ira à fond dans l'art contemporain sonore.
J'ai hâte d'y être.
Ah, bon, voilà, c'est prévu, mais bon, il y a tellement de choses de prévues, je sais pas quand, mais, enfin bref. Oui, alors les amis, alors on sait plus quoi dire.
Ah, si.
On sait plus quoi dire.
Si.
Moi j'ai toujours mon article,
vas-y. Guy, vas-y.
Ah, le pauvre Guy.
Bah oui, parce que
c'est
maintenant qu'il faut le lire. Quoi.
Si tu prends pas la parole...
Quand je dis maintenant, c'est pas à cette heure-là, mais c'est...
Yves te la laissera pas.
D'autant plus que pourquoi... En fait, la semaine dernière, je devais le lire,
On avait beaucoup d'articles. Hein. Et puis j'ai dit, mais la semaine prochaine, ça ira très bien. Je suis pas devin, moi, mais quand même, vous allez voir, ça colle avec l'actualité. C'est, ça colle, ça.
On t'écoute.
C'est par couche et ça se rajoute à l'actualité, vous allez voir. Donc une 40e année de détention ne doit pas nous laisser indifférents parce que c'était le 24 octobre 1984 et donc on va rentrer en 2024. Et est-ce que Georges Abdallah est parti pour encore une année, sa 40e année en fait d'incarcération. Alors manifestons le 21 octobre, c'est dans je ne sais pas combien de temps, on va dire, on est le 13, c'est ça, c'est dans 8 jours. 8 jours exactement, voilà, ça sera un samedi donc. Et à Lannemezan, c'est le département 65. 65, Pyrénées, Pyrénées orientales, c'est ça, hein, je ne me trompe pas beaucoup.
Je ne sais pas.
Voilà, 65-66, c'est là. Pour demander sa libération et son expulsion vers le Liban. Alors, Georges Abdallah est incarcéré en France depuis le 24 octobre 1984. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat le 28 février 1987 par la Cour d'assises de Paris, spécialement composée pour cela. Alors, les faits dont la complicité lui est imputée remontent à 5 années plus tôt, lorsque son organisation, les Fractions Armées Révolutionnaires, les FAR, donc, libanaises, les Farlins, avec un L au bout, hein, ont décidé de continuer la résistance à l'occupation israélienne du Liban, en dehors du sol national, en assassinant, eh bien, des responsables militaires israéliens et américains. Alors, ce sont des membres des services secrets israéliens et américains qui vont être assassiné. Le procureur avait demandé la peine capitale pour les faits reprochés, soit 10 ans de prison ferme. Mais le climat politique et médiatique a transformé cette peine en perpétuité. Il faut rappeler qu'en 1982, le Liban se trouve occupé par l'armée israélienne, alors que des troupes américaines, mais aussi françaises, sont présentes au Liban, sous prétexte d'en assurer la sécurité. Et que cette invasion précédera de peu le massacre perpétré à Sabra et Shatila. Là encore, sous l'œil des forces d'interposition qui se trouvent là, c'est-à-dire les forces américaines et les forces françaises. Alors, voir pour cela l'ouvrage de Jacques-Marie Bourget, présent sur place le lendemain matin. Ça s'appelle Sabra et Shatila, au cœur du massacre. Alors, Georges Ibrahim Abdallah est un communiste révolutionnaire libanais, soutien de la cause palestinienne, il a 72 ans et a donc passé beaucoup plus de temps en prison qu'en liberté. Il est aujourd'hui au centre pénitentiaire de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, je savais que c'était les Pyrénées, mais Hautes-Pyrénées. Avec 39 années de détention, il n'est certes pas le plus vieux prisonnier, mais bien le plus vieux prisonnier politique en Europe. Sa libération dépend donc, non de la justice, hein, mais du pouvoir exécutif. L'ensemble de son histoire relève des manipulations d'État, un avocat travaillant pour les services secrets français, des médias qui rendent sa famille responsable des attentats sanglants de la rue de Rennes, des juridictions d'exception appliquées rétroactivement, ce que montre bien Saïd Bouhamama dans son livre et ce que montrera le prochain film de Pierre Karl, qui met en avant pour cette peine la responsabilité de la presse et en particulier de Libération et du Monde, dirigé à l'époque par Edwy Plenel, tout à l'écoute du ministère de l'Intérieur et de ses manipulations. Il est devenu le symbole de la perpétuité réelle en France lorsque le ministre socialiste de la Justice, Urvoas, a répondu à une députée républicaine qui réclamait une loi de perpétuité réelle pour les terroristes, qu'elle existait. La preuve, Georges Abdallah. En tant qu'étranger condamné à une peine de perpétuité, Georges Abdallah ne peut se voir libéré que si le ministre de l'Intérieur signe un arrêt d'expulsion vers le Liban. Les autorités libanaises réclament la libération de leurs compatriotes sans succès. La justice a déjà à plusieurs reprises décidé de sa libération, mais ces décisions ont été cassées pour défaut d'arrêt d'expulsion. En effet, pour être libéré avant la fin de la peine, il faut exécuter une liberté conditionnelle sur le sol français. Or, Georges Abdallah n'a aucun titre de séjour en France. Pire, lors d'un premier jugement, en 1986, il a été condamné à 5 ans d'interdiction de séjour. Pour aller plus loin, je vous invite
à consulter le site de son comité de soutien, c'est libérongeorges.samizdat.net, et à lire aussi eh bien, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah de Saïd Bouamama aux éditions des premiers matins de novembre. Alors, et à regarder eh bien, Fedayin, le combat de Georges Abdallah par le collectif Vacarme. Vacarme Film, c'est Vacarme entre parenthèses le S, mais je pense que c'est peut-être au pluriel. Voilà. A signé aussi la pétition, eh bien, Monsieur le Président de la République, libérez Georges Abdallah, Georges Ibrahim Abdallah, je pense que j'avais lu cet article-là qui était sorti eh bien, il n'y a pas longtemps, en septembre 2019, dans Le Monde Libertaire. Et puis, à venir manifester le samedi 21 octobre à Lannemezan. Donc, on a dit le département, c'est 65. Et ce sera à 14h devant la gare, en allant jusque devant la prison. Des départs collectifs en bus seront organisés depuis Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille. Cette mobilisation doit dépasser l'écho de la presse régionale, comme les années passées, et obtenir l'écho médiatique national et international indispensable pour faire bouger le pouvoir politique, seul décideur désormais de sa libération. C'est signé par Philippe Arnaud, qui est au Cercle Libertaire Jean Barouet. C'est dans le 33, c'est-à-dire dans le département de la Dordogne. Voilà. Gironde, pardon.
Oui, Gironde.
Tu es chaud.
Who loves my sense of dark?
Tu m'es cher.
Who loves my light so dark? Who loves my sense?
Tu es chaud.
Who loves my light so dark?
Tu es chaud.
Who loves my light so dark?
Tu es mon soleil.
My sense so dark.
Tu es chaud.
Who loves my sun so dark? Who loves my light so dark?
Soleil.
or loves my son so dark. Oh dark, oh dark, or loves my son so dark.
Radio Libertaire 89.4, Radio Libertaire de Poste Non Radio Show. Oui.
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 C'est bien de laisser des silences à la radio.
Bon. Et il reprend le flambeau alors. Il reprend le flambeau sur le. La taxation des plus riches.
Ah, ouais. Après le glyphosate et le nucléaire, les impôts.
Bah, on commence par le plus récent des articles que j'ai vu passer dans Le Monde, c'est-à-dire un article de 12 octobre. Alors, celui-là, il est signé de Lucas Chancel.
J'espère qu'il n'est pas trop long.
Non, je vais le raccourcir. Lucas Chancel, professeur d'économie à Sciences Po, Camille Etienne, militante écologiste, Aurore Laluc, eurodéputé, groupe l'Alliance progressiste et socialiste et démocrate, Paul Magnette, président du Parti socialiste belge et bourgmestre de Charleroi, Claire Nouvian, fondatrice de l'ONG protectrice des océans Bloom, Thomas Piketty, directeur d'études à l'EHESS et à l'École d'économie de Paris, Boris Vallot, député PS des Landes, et Gabriel Zucman, prof d'économie à l'ENS et à Berkeley en Californie. Il s'agit d'un collectif d'intellectuels, de représentants politiques et d'ONG emmené par le président du Parti socialiste belge Paul Magnette et l'eurodéputé Aurore Laluc qui demandent que la question de la justice fiscale soit remise au cœur du débat politique au sein de l'Union. Et ça commence par les 1% les plus riches de la planète possèdent près de la moitié des richesses mondiales d'après les chiffres d'Oxfam et ils émettent plus d'émissions de CO2, là ils commencent à devenir méchants en s'attaquant au voyage en avion apparemment. Ils émettent plus d'émissions de CO2 qu'à la moitié la plus pauvre de la planète selon l'économiste Lucas Chancel. Pourtant ils sont loin d'être aussi taxés à hauteur de leurs moyens pour lutter contre le dérèglement climatique et ses conséquences. Dans un pays comme la France, l'impôt est même devenu dégressif pour les ménages les plus riches, alors que les Français payent en moyenne 50% de leurs revenus en prélèvement obligatoire. Les 0,0002% des plus riches, soit environ 370 ménages, bénéficient d'un taux effectif d'imposition de l'ordre de 26%. Et le pire, le taux effectif d'impôt sur le revenu pour ces super riches s'élève seulement à 2%. Alors, ça doit être une faute de frappe, mais non, on en a déjà parlé. D'après une note produite par l'Institut des politiques publiques. Donc, il ne s'agit pas d'une erreur ou d'un trou dans la raquette fiscale, mais bien un système fiscal, dit l'article, sciemment au service des plus riches d'entre nous. Une situation de favoritisme devenue la norme de nos démocraties européennes. Dans la quasi-totalité des pays européens, la position des plus riches s'est un peu à peu volatilisée et en à peine 30 ans, l'impôt sur la fortune a été supprimé dans tous les pays européens, sauf en Espagne. Il est donc temps d'inverser cette tendance, non seulement inefficace économiquement, mais également insupportable d'un point de vue démocratique. Et donc, ils ont choisi pour faire ça. Il y a des études qui ont démontré qu'un tel impôt permettrait de rapporter environ 200 milliards d'euros par an en colletant à peu près une taxe de 0,5% sur les plus riches. Comme voie pour essayer d'imposer ce choix, ils ont choisi de développer une initiative citoyenne européenne. Alors, c'est une sorte de référendum d'initiative populaire à l'échelle européenne. Si vous cherchez sur Internet, vous tapez donc « Initiative citoyenne européenne », vous allez trouver tout de suite en troisième ou quatrième position. Et c'est une procédure un peu très peu connu, qui permet, en cas de succès, de demander à la Commission européenne de formuler une proposition législative concrète pour répondre à la demande. En l'occurrence, une proposition d'impôt européen sur les grandes fortunes pour financer la transition écolo et sociale. L'instauration d'un impôt européen sur la grande fortune nécessiterait 3 interventions législatives. On rentre dans le détail ? D'abord, ils invitent la Commission européenne à présenter une proposition de directive portant création d'un impôt européen sur la grande fortune sur le fondement de l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Cet article permettrait au Conseil, statuant à l'unanimité, d'arrêter les directives pour rapprocher, c'est-à-dire de mettre en place des directives pour rapprocher les législations nationales, notamment dans le domaine de la fiscalité directe, dès lors que celle-ci a une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Or, justement, ces disparités nationales sur l'imposition des ultra-riches sont susceptibles d'alimenter une concurrence fiscale accrue au sein de l'UE et de créer des distorsions au sein du marché intérieur.
Distorsion, oui.
De tordu et tordre et distorsion. Bon, distorsion. Ensuite, nous demandons que cet impôt européen sur la fortune contribue au régime des ressources propres de l'UE, conformément à la volonté manifestée par les institutions européennes depuis 2020 de trouver de nouvelles ressources propres pour alimenter le budget de l'UE. Enfin, ces nouvelles ressources tirées de l'impôt sur la grande fortune devraient être affectées à une transition écologiste et sociale juste par l'alimentation des politiques de l'UE et des États membres consacrés à cet objet. Ils invitent donc la Commission européenne à présenter des propositions de règlement afin de renforcer les fonds pour la facilité et la résilience des fonds liés au Green Deal et à la politique de cohésion de l'UE. Pour que cette initiative soit victorieuse, c'est là où je vous demande d'agir. Il faut réunir plus d'un million de signatures sur l'ensemble du continent. Un million de signatures, ça peut sembler énorme, mais en fait, c'est très peu puisqu'on est 250 millions. Alors, je me suis connecté au site du truc, et en fait, cette 6e initiative citoyenne européenne enregistrée en 2023. Les organisateurs disposent de 6 mois pour choisir la date de début de collecte des déclarations de soutien. Donc, il faudra guetter ça.
Oui. En fait, c'est un peu le même principe